Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand Sudbury s'appelait Sainte-Anne-des-Pins, un texte de Lise Denis paru le 27 février 2024 dans Le Devoir. Paris, Champlain, La Salle, Belleville. L'Ontario recèle plusieurs noms francophones de municipalités. Mais y parle-t-on encore français? Ces vestiges de la présence franco-ontarienne, plusieurs fois menacée de disparition, peuvent aujourd'hui camoufler des populations majoritairement anglophones. Quand on voit un nom français, on se dit « il doit y avoir de la vie française ici », mais souvent, ce sont des vestiges d'une histoire très ancienne. Alors, des fois, ça ne résonne pas avec une réalité contemporaine, explique la professeure émérite au département de géographie de l'Université d'Ottawa, Anne Gilbert. Les apparences sont en effet parfois trompeuses. Selon des données du recensement de 2021 de Statistique Canada compilé par Le Devoir, moins de 2% des habitants de Belleville, entre Kingston et Toronto, ont indiqué avoir le français comme langue maternelle. Un pourcentage qui ne surprend pas Mme Gilbert, qui explique que la toponymie française de cette ville est presque le résultat du hasard. Sans véritable lien avec une présence francophone, elle a été nommée en l'honneur d'Annabella Wentworth, la femme de l'administrateur colonial britannique Francis Gore. Il n'y a pas un coin qui est plus loyaliste, plus anglo-saxon, plus frileux par rapport aux questions francophones, juge Mme Gilbert. Par contre, au nord et à l'est de l'Ontario, il y a eu non seulement une toponymie française, mais aussi une vie française, ajoute l'ancienne directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne française. Ainsi, plus du tiers des habitants de la petite localité forestière de Chapleau ont le français comme langue maternelle. Et quand on voit le tiers de francophones pour les gens qui œuvrent en milieu minoritaire, c'est une bonne proportion de francophones, avance-t-elle. Plus au nord, le français est majoritaire à Dubreuilville, un village typiquement franco-ontarien enclavé dans une mer d'anglais, note l'historien indépendant Diego Elizondo. S'ils n'ont pas toujours reflété la réalité du terrain, les toponymes français ont été un important vecteur d'attraction. C'était beaucoup plus accueillant pour les francophones parce qu'ils savaient qu'avec ces noms, il y avait au moins une histoire franco-ontarienne de la localité, estime M. Elizondo. De nombreux bastions de la francophonie dans la province, comme Hearst ou Hawkesbury, portent toutefois des noms anglais. Anciennement, très peu peuplés par les migrants britanniques, ils sont devenus majoritairement francophones grâce à l'immigration de locuteurs français qui quittaient la vallée du Saint-Laurent. Mais les noms anglophones sont restés, souligne l'historien. Un nom peut en cacher un autre. Chaque toponyme a une histoire différente, et ceux qui demeurent ont plusieurs fois été menacés de disparition. À la fin du 18e siècle, le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, John Graves Simcoe, a effacé tous les toponymes francophones et autochtones pour les remplacer par des toponymes anglophones, afin d'asseoir le pouvoir colonial britannique, raconte Diego Elizondo. C'est ainsi que Fort Frontenac devint Kingston et que la baie du Tonnerre fut rebaptisée Thunder Bay. La toponymie française a toutefois regagné du terrain au fil des siècles, notamment par la fondation de paroisses francophones. Mais certains noms, comme celui de Sudbury, ville autrefois appelée Sainte-Anne-des-Pins, n'ont pas perduré. La fusion des municipalités menée à la fin des années 1990 par le gouvernement conservateur de Mike Harris a également eu pour effet d'effacer un peu les toponymes, souligne le spécialiste en histoire franco-ontarienne. Si certaines villes ont été rassemblées sous un nom francophone, comme Rivière des Français, d'autres municipalités francophones ont été englobées dans de grands ensembles avec des noms à prédominance anglophone. À une échelle plus micro, l'Ordre de Jacques Cartier, fondé en 1926, a fait de l'instauration de noms de rues francophones un « cheval de bataille » dans plusieurs localités, ajoute M. Elizondo. Un combat encore mené par la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, en banlieue d'Ottawa. je pense que les francophones continuent de comprendre l'importance d'avoir des noms qui leur ressemblent pour qu'ils se sentent chez eux, résume celui qui a cofondé l'organisme. L'exception néo-brunswickoise. Toutes les municipalités au toponyme français étudiées par Le Devoir et situées en dehors du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sont aujourd'hui à forte majorité anglophone. On compte par exemple seulement 3% de locuteurs natifs francophones à Crapaud, sur l'île du Prince-Édouard, et aucun à Roche-Percé, en Saskatchewan. Le Nouveau-Brunswick fait quant à lui exception, avec une écrasante majorité de francophones dans la plupart de ces villes au toponyme français. Il faut admettre que c'est le tiers de la population du Nouveau-Brunswick qui est française, souligne Mme Gilbert. C'est 30% de la population qui avait, en 2021, le français comme seule première langue officielle parlée, ne sont pas répartis équitablement, ajoute-t-elle. Ils se concentrent le long de la côte et vers le sud. Il n'y a pas un petit village français qui va survivre si la région ne l'est pas aussi, pour avoir un minimum d'institutions. Alors souvent, ce n'est pas tant le lieu lui-même que la région plus large qui donne le ton. C'était quand Sudbury s'appelait Sainte-Anne-des-Pins, un texte de Lise Denis, paru le 27 février 2024 dans Le Devoir.
La population du Nunavik ne veut plus brûler ses déchets. Un texte de Nancy Caouette, paru le 22 février 2024 dans Québec Science. Au nord du Québec, des milliers de personnes sont exposées à des fumées hautement toxiques issues du brûlage de déchets, obligatoire selon la loi. Une communauté a décidé de faire les choses autrement. On se croirait en plein désert. Pourtant, nous sommes au cœur de la taïga québécoise, juste au nord de Wap-Magoustoui et de Kououdjouarapik, des municipalités voisines, la première Cree et l'autre Inuit, au nord du 55e parallèle. Devant nous s'étend un grand terrain sablonneux qui a récemment été creusé sur quelques mètres de profondeur. Il est entouré de hauts tas de sable appelés bermes. Raphaël Joannis Clément, le maître d'œuvre de ce désert, a des étoiles dans les yeux. Il travaille depuis 5 ans sur ce site d'enfouissement qui doit remplacer cet été l'autre dépotoir, plein à craquer, de déchets que l'on brûle au moins une fois par semaine en plein cœur du village inuit. Je vois pour la première fois le résultat final après des années de travail, c'est-à-dire de l'étude d'impact à l'aménagement du site, lance l'ingénieur et chargé de projet en travaux d'immobilisation pour le gouvernement de la nation Cree, visiblement ému et emballé. Ce type de décharge s'appelle un lieu d'enfouissement technique en surélévation. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu au sud de la province. Ce grand trou de 32 000 mètres carrés, en apparence banal, a le potentiel d'améliorer grandement la qualité de vie des quelques 2 000 âmes qui sont exposées à des fumées toxiques en provenance du dépotoir actuel. On est à plus de 6 km des maisons, alors que l'actuelle décharge est située au cœur de la communauté. On vise à ne plus rien brûler ici. C'est en surélévation, c'est-à-dire qu'on va d'abord enfouir les matières résiduelles dans le trou et, une fois le niveau du sol atteint, on va continuer à empiler jusqu'à la hauteur des bermes, qui mesure 5 mètres. Le site peut recevoir des déchets durant 35 ans, voire 50. Mais notre but, c'est de réduire la quantité de matière enfouie par une collecte de matière recyclable et compostable. Si on le fait assez rapidement, on pourrait continuer à enfouir ici pour les 100 prochaines années, estime Raphaël Joannis-Clément. Le Québec compte 26 lieux d'enfouissement en milieu nordique, LEMN, soit des dépotoirs situés essentiellement en terres inuites, mais aussi Naskapi et dans des municipalités de la côte nord, dont Blanc-Sablon et Schefferville. En ces lieux, la législation québécoise oblige le brûlage de déchets à ciel ouvert à un rythme hebdomadaire pour des raisons sanitaires et pour gagner de l'espace. Ce sont pour la plupart des décharges improvisées par les populations qui ont été encadrées par des lois québécoises dans les années 1980. Bien que le site de Kououdjouarapik ne fasse pas officiellement partie de ces 26 LEMN, on y gère les déchets de la même façon. Dans un courriel, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, explique que le site aurait dû être fermé en 1986 et remplacé par un autre, qui ne s'est pas concrétisé avant aujourd'hui. Le jour de notre visite, un épais panache de fumée noire fait d'ailleurs écran à la mer, qui se trouve pourtant à 250 mètres. Les émanations qui piquent la gorge dégagent une odeur de papier et de plastique brûlé. On a de la chance aujourd'hui. Le vent souffle vers la baie d'Hudson, explique Raphaël Joannis-Clément. La loi québécoise spécifie que l'on doit brûler les déchets quand le vent souffle vers le large. Mais en réalité, le vent peut tourner n'importe quand. Et là, c'est l'aéroport et les maisons situées à quelques centaines de mètres qui écopent. Le MELCCFP soutient par écrit avoir effectué un suivi de la situation et que des inspections ont été réalisées, dont les plus récentes à l'automne 2023. Vous écoutez? La population du Nunavik ne veut plus brûler ses déchets. Un texte de Nancy Caouette, paru le 22 février 2024 dans Québec Science. Le secrétaire trésorier de la municipalité inuite de Kououdjouarapik, Pierre Roussel, qui gère le site, affirme ne pas recevoir beaucoup de visites des représentants du gouvernement du Québec. Il souligne que son administration fait de son mieux pour détourner du site l'essentiel des métaux, les objets encombrants et les matières dangereuses. Ce n'est pas évident, car il n'y a pas de clôture autour du site, comme vous pouvez le voir. Plusieurs personnes vont directement y déposer leurs déchets et parfois même y mettre le feu. On a déjà dû gérer des explosions de bonbonnes de propane, ce qui constitue un danger pour les employés et l'aéroport qui n'est pas loin. C'est surprenant qu'il n'y ait pas eu d'accident ni de personnes blessées. S'insurge celui qui travaille depuis près de 40 ans pour la municipalité. Originaire du sud du Québec, Pierre Roussel est arrivé au Nunavik en 1986 et n'en est jamais reparti, après y avoir connu sa femme et être tombé amoureux de la nature. Il espère que le nouveau site d'enfouissement en territoire Cree permettra de se débarrasser une fois pour toutes des fumées toxiques qui n'ont jamais été analysées, à son grand désarroi. Nous aimerions bien savoir ce que nous respirons depuis des années et les effets sur notre santé, mais nous n'avons pas les moyens techniques ni financiers d'effectuer des tests. Le gouvernement du Québec promet qu'il va faire des études, mais il trouve toujours des prétextes pour ne pas venir ici. Sur place, trois personnes nous ont affirmé que certains de leurs proches s'étaient rendus à la clinique pour des problèmes d'asthme lorsque les fumées envahissaient le village. Mon cousin de 55 ans s'enferme chez lui quand le panache de fumée tourne vers le village. C'est simple, il étouffe. Ça touche surtout les personnes âgées et les enfants, constate Mini Itochat, organisatrice communautaire de Kuujjuarapik. Elle explique que ce dossier crée beaucoup d'anxiété. Tout le monde en parle sur Facebook, à la radio. Il y a eu une pétition il y a quelques années pour demander l'arrêt de ces feux, mais rien n'a été fait. C'est tellement facile de brûler des déchets ici et de l'interdire au sud. Le gouvernement ne va jamais venir ici pour nous dire la vérité sur ces fumées. Heureusement, on va arrêter de les subir avec le nouveau dépotoir, en espérant qu'il ne contaminera pas nos terres, nos animaux et l'eau que nous buvons, avance-t-elle. Le passé refait surface. Le Nord a un lourd passé. Une étude allemande publiée en 2023 dans Nature Communication rappelle que des contaminants industriels et des déchets nucléaires ont été enfouis dans pas moins de 4500 sites industriels dans le pergélisol de l'Arctique, dont plusieurs au Canada, y compris au Nunavik, dans l'espoir qu'ils y seraient figés pour toujours ou simplement pour faire des expériences. Les scientifiques concluent que le dégel du pergélisol va exacerber cette menace environnementale, rappelant que la gestion des contaminants doit tenir compte des changements climatiques. Fumée toxique. Si cette solution apporte un peu d'espoir aux résidents et résidentes de Wapmagoostui et de Kuujjuarapik, les autres communautés disposant de LEMN n'ont pas cette chance. Les études sanitaires et environnementales restent donc cruciales. Lors des audiences publiques sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, en 2021, des représentants des ministères de la Santé et des Services sociaux, M3S, du Québec et le MELCCFP, affirmait d'ailleurs qu'il était hautement urgent de caractériser les contaminants causés par ces brûlages afin d'en évaluer les effets. Or, trois ans plus tard, le M3S affirme par courriel avoir un intérêt à regarder la chose de plus près, mais que, pour y parvenir, l'acquisition de données concernant les contaminants dans les milieux de vie, dans l'eau et dans l'air, est essentielle. Et celle-ci est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. De son côté, le MELCCFP avance que la première étape à prévoir consiste à identifier les données nécessaires pour la réalisation de telles études, puisqu'elles ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Aucun échéancier n'a encore été fixé pour donner suite à ces recommandations. En attendant, la science est claire sur la dangerosité de certains contaminants produits lors de la combustion. En 2016, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement jugeait préoccupante la présence de contaminants dans les fumées de brûlage de déchets à ciel ouvert, comme les particules fines, PM2,5, notamment celles de carbone noir. Mais ce qui est plus préoccupant pour l'épidémiologiste respiratoire et directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, Isabella Anesi Maesano, c'est la présence de furanes et de dioxines. Ces substances, issues du brûlage de plastique, sont considérées comme cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Leurs effets sur la santé varient en fonction d'une foule de paramètres, comme la fréquence et la durée d'exposition ou encore la distance entre les fumées et la population vulnérable. C'est pourquoi il faudrait faire des études de terrain dans chacune des communautés exposées. La ville de Schefferville a décidé de ne pas attendre les études gouvernementales et a commandé, en 2008, une étude de modélisation des contaminants d'intérêt sur le domaine entourant son dépotoir. L'étude a permis de constater que la concentration maximale de furane et de dioxine rejetées était 3167 fois plus élevée que la norme applicable sur le site. Vous écoutez, la population du Nunavik ne veut plus brûler ses déchets. Un texte de Nancy Cahouet, paru le 22 février 2024 dans Québec Science. Isabella Anesi Maesano, qui a étudié les effets du brûlage à ciel ouvert dans des communautés d'Afrique de l'Ouest, ajoute que les études les plus récentes tendent à démontrer que ces fumées ont des conséquences irréversibles. Les études chez les travailleurs de décharge sont assez nombreuses pour qu'on fasse des liens vers des cancers. J'ai moi-même analysé des échantillons de poumons obtenus par des biopsies ou des produits d'expectoration dans lesquels il y avait tellement de carbone noir que les macrophages alvéolaires, qui doivent attraper et phagocyter les particules dangereuses pour le poumon, n'arrivaient plus à se renouveler. Il existe des hypothèses très sérieuses sur le fait que le même phénomène se produit ailleurs, notamment dans le cerveau, où les particules altèrent tous les types de cellules. Elle encourage ses homologues canadiens à prendre la chose au sérieux. On connaît très bien les effets isolés de chacun des contaminants contenus dans ces fumées. On sait que l'exposition aiguë à la pollution de l'air est liée à des accidents vasculaires cérébraux, à des malformations à la naissance ou à un risque accru de maladies respiratoires chroniques chez les enfants. Je pense que vous avez d'excellents épidémiologistes qui pourraient se rendre sur le terrain et évaluer les effets de ces contaminants sur la population. Ces études permettront ensuite de prendre de meilleures décisions quant à la façon de gérer ces matières résiduelles. De telles études tomberaient à point, puisque les 26 LEMN du Québec devront, un jour ou l'autre, être remplacés. Pour l'instant, le MELCCFP affirme qu'aucun autre projet d'enfouissement n'est prévu en milieu nordique. Dans un courriel, un porte-parole explique qu'en raison de la présence de pergélisol et de la très grande rareté des dépôts meubles, sable ou gravier, le brûlage des matières résiduelles est nécessaire et permet une importante diminution du volume des matières résiduelles, en plus de réduire certaines nuisances, telles que la contamination des eaux de surface et souterraines et l'attraction des animaux. Pourtant, à Wapmagoustoui et à Kououjouarapik, il n'y a pas de pergélisol, pas plus que dans 11 des 26 communautés nordiques où l'on brûle actuellement des déchets. Il y aurait moyen de ne pas brûler à ciel ouvert partout au Québec, mais ça coûterait extrêmement cher. La réglementation serait beaucoup plus stricte et donc ce serait plus compliqué à gérer, souligne Raphaël Joannis-Clément. S'il n'y a pas de dépôt meuble, on peut toujours mettre en place une carrière pour en obtenir. Au Nunavik, il y a l'option de l'enfouissement en élévation, sans creusage préalable, c'est-à-dire qu'on dépose les déchets directement sur le pergélisol. Le Nunavut a déjà évalué cette option, mais il n'y a pas beaucoup d'études, il faudrait en produire. Bien que ces options soient valables, Le directeur de la chaire de recherche et d'intervention en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, Claude Villeneuve, croit qu'il est plus réaliste de miser avant tout sur le tri efficace des matières résiduelles et sur leur réduction. Et il faudrait clôturer tous les sites pour éviter de brûler des matières hautement dangereuses, dit celui qui a coordonné un portrait de la gestion des matières résiduelles dans le nord du Québec en 2014. Il faut ensuite mettre en place des écocentres et le tri de certaines matières résiduelles, comme le plastique et les matériaux de construction, pour rendre ces fumées moins toxiques. Le gouvernement du Québec a la responsabilité de le faire. Au sujet du nouveau site de Wapmagoustoui en surélévation, Claude Villeneuve affirme que ce qui est intéressant, c'est que la population a été consultée et impliquée dans la mise en place du projet. C'est, à mon sens, le point le plus important dans un tel projet. Bien sûr, dans l'idéal, on aurait mis une géomembrane pour éviter de contaminer le plus possible le sol et la nappe phréatique, comme on le fait ailleurs au Québec. Pour des raisons de coût et parce que la législation ne l'exige pas, cela n'a pas été fait. Bien qu'il existe des projets d'éco-centres et de collecte sélective à Wapmagoustoui et à Kououdjouarapik, Pierre Roussel ne s'attend pas à ce qu'il se concrétise rapidement. Il faut le faire en concertation avec les CRI et le gouvernement du Québec, et le tout par visioconférence. C'est long et frustrant pour nous. Je comprends que le gouvernement du Québec a des procédures à suivre, mais ce serait bien qu'on prenne en compte la complexité du processus ici pour accélérer les choses. Le fonctionnaire, père de 5 enfants et grand-père de 11 petits-enfants, croit qu'il faut améliorer les choses rapidement pour les générations à venir. On veut de la verdure, on veut de beaux projets. Je pense qu'on ne peut pas tout penser sous l'angle de la rentabilité. Il faut agir pour nos jeunes, qui voient bien les iniquités qui existent entre le Nord et le Sud. C'était « La population du Nunavik ne veut plus brûler ses déchets », un texte de Nancy Caouette, paru le 22 février 2024 dans « Québec Science ».